Vous écoutez, on lit pour vous.
Les diplômés étrangers davantage sous-employés selon une enquête nationale. Un texte de David Baxter, de la presse canadienne, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. Les étudiants internationaux diplômés d'établissements canadiens sont plus susceptibles d'être sous-employés que leurs pairs canadiens, et bon nombre d'entre eux vivent donc avec des revenus moindres. L'Enquête nationale de Statistique Canada auprès des diplômés a examiné le taux d'emploi de plus de 83 000 étudiants internationaux diplômés en 2020 qui sont restés ensuite au Canada et qui n'ont pas poursuivi d'études. L'enquête indique qu'un peu plus d'un tiers des diplômés internationaux titulaires d'un baccalauréat occupaient des emplois nécessitant effectivement un diplôme universitaire contre 60 % chez leurs pairs canadiens. Selon Statistique Canada, cela peut expliquer pourquoi le revenu annuel médian des étudiants internationaux titulaires d'un baccalauréat est inférieur de 20 % au niveau médian de tous les diplômés canadiens. L'enquête a également révélé que les diplômés internationaux sont plus de trois fois plus susceptibles de travailler dans les secteurs des ventes et des services que leurs homologues canadiens. Malgré cela, l'enquête indique que les diplômés internationaux et canadiens déclarent des niveaux de satisfaction au travail à peu près semblables. André Côté, directeur des politiques publiques et de la recherche à The Days, un groupe de réflexion de l'Université métropolitaine de Toronto, souligne que les nouveaux diplômés internationaux qui arrivent sur le marché du travail peuvent manquer d'expérience canadienne, ce qui peut constituer un obstacle. Un facteur important pour obtenir un emploi est souvent votre réseau qui vous permet d'être mis en contact avec des opportunités lorsque vous entrez dans le processus de recrutement. De plus, les employeurs cherchent souvent à savoir si les gens ont des expériences canadiennes pertinentes dans leur CV, a déclaré M. Côté. Le défi pour les étudiants étrangers nouvellement arrivés au Canada, c'est qu'ils n'ont souvent pas ces expériences sur leur CV, a-t-il ajouté. Au début de l'année, M. Côté a coécrit un rapport invitant les gouvernements et les établissements d'enseignement supérieur à revoir la gestion des programmes destinés aux étudiants étrangers après la réduction importante du nombre de visas d'étudiants qui seront octroyés au cours des deux prochaines années. Le rapport recommandait de mettre en place davantage de mesures pour aider les étudiants étrangers à démarrer leur carrière. Les universités et les établissements d'enseignement supérieur devraient en faire beaucoup plus. Ces étudiants paient des frais considérables pour pouvoir étudier ici. Nos institutions peuvent certainement en faire plus pour les préparer à réussir dans leur vie professionnelle, a-t-il affirmé. Le rapport de M. Côté indique que trop d'étudiants étrangers suivent des formations commerciales générales au lieu de se tourner vers des secteurs comme celui de la santé, où il manque de personnel. Les diplômés internationaux représentaient 24 % de l'ensemble des étudiants ayant terminé un programme d'études postsecondaires en 2020. L'écart de revenus entre les récents diplômés étrangers et canadiens est important, mais il semble diminuer à moyen et à long terme. M. Côté a cité une étude réalisée en janvier 2020 par le Conseil de l'information sur le marché du travail qui a suivi les données fiscales des diplômés postsecondaires de 2010. Cette étude a révélé un écart de 21 % entre les revenus moyens des étudiants canadiens et internationaux un an après l'obtention de leur diplôme, mais a montré que cet écart diminuait à 9 % 5 ans après la fin des études. C'était Les diplômés étrangers davantage sous-employés selon une enquête nationale, un texte de David Baxter de la presse canadienne, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
Une pluie d'hommage pour Francis Véropol, élu chef de l'APNQL. Un texte de Vicky Boutin paru le 26 février 2025 dans Espace autochtone. L'élection de Francis Véropol à la tête de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, APNQL, soulève une vague de fierté au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il a grandi. Celui qui est originaire de Macheteau-Yatch a évolué pendant plusieurs années au sein des Saguenayens de Chicoutimi. Il a fait partie de l'équipe pendant 4 saisons, entre 2004 et 2008. Il a même été nommé capitaine de la formation. Le député conservateur de Chicoutimi-le-Fjord, Richard Martel, était alors entraîneur-chef des Saguenayens. Il a communiqué avec le nouveau chef de l'APNQL dès l'annonce de son élection. « Je suis très fier de ce qu'il a réalisé », dit-il. Francis, c'est un peu un modèle. À l'école, il était très bon. Dans la chambre, il avait énormément de respect de la part de ses coéquipiers. Il avait beaucoup d'influence aussi. C'est une personne qui ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, c'était toujours quelque chose d'important, se souvient le député. Il ajoute d'ailleurs ne pas être surpris de le voir continuer son chemin en politique. C'est un leader. Il trouve la façon de se démarquer par sa personnalité, par sa façon de faire, ajoute Richard Martel. L'actuel entraîneur des Bleus, Yannick Jean, est du même avis. Il croit que l'association pourra compter sur un chef avec une grande rigueur. Jean était l'entraîneur adjoint chez les SAG lors du passage de Véropol. Les deux hommes sont d'ailleurs demeurés amis au-delà du sport. Francis peut être fier et les communautés peuvent se compter privilégiées d'avoir une personne comme lui, dit-il. Des félicitations du conseil de bande. La communauté de Macheteau-Yatch a également félicité le nouveau chef de l'APNQL. Les membres du conseil de bande ont fait une publication sur Facebook pour souligner l'événement. De voir un Pécois Kamiulnu ayant grandi à Macheteau-Yatch à ce poste est inspirant pour toute la communauté. Nous sommes convaincus que ses valeurs et sa détermination le guideront pour ce mandat, peut-on lire dans la publication. Le chef de Macheteau-Yatch, Gilbert Dominique, a lui aussi souligné l'élection de Véropol. Je suis très, très heureux de pouvoir compter sur les compétences et l'engagement d'un jeune de la trempe de Francis Véropol. C'est vraiment de bon augure pour la suite des choses au sein de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, a-t-il dit en entrevue à l'émission Place publique. Avant d'être élu pour succéder à Ghislain Picard, Francis Véropol a aussi travaillé à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, où il était chef des relations avec les Premières Nations, un poste qu'il a occupé pendant 2 ans. Il a ensuite rejoint le Conseil en éducation des Premières Nations basé à Wendake, puis le cabinet de Ghislain Picard. Francis Véropol possède un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en administration des affaires. C'était une pluie d'hommages pour Francis Véropol, élu chef de l'APNQL. Un texte de Vicky Boutin paru le 26 février 2025 dans Espace autochtone.
Des absences scolaires préoccupantes et mal connues. Un texte de Zachary Goudreau paru le 20 février 2025 dans Le Devoir. Qu'elles soient le fait de maladies, de vacances en famille ou d'activités sportives, les absences d'élèves préoccupent, car elles peuvent nuire à la réussite scolaire en plus d'alourdir le travail des enseignants. Les périodes d'absence se comptent par millions dans les écoles du Québec chaque année. Mais il est impossible de prendre la pleine mesure du problème puisque le gouvernement ne compile pas de données suffisamment complètes et fiables pour comprendre l'ampleur et les sources du problème. Après avoir fait une demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Éducation, Le Devoir a compté près de 10,8 millions de périodes d'absence d'élèves dans les écoles publiques de la province, entre le 6 septembre 2022 et le 15 janvier 2025. Le HIC, le ministère n'a comptabilisé les absences que le lundi et le mercredi en 2022-2023, puis uniquement le mercredi depuis. Les chiffres obtenus ne représentent donc qu'une fraction de la réalité. Il y a clairement un problème là, lance le porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, Sylvain Martel, qui s'étonne de voir que le ministère de l'Éducation ne documente pas de façon plus assidue ses absences, tout comme leurs causes. Joint par Le Devoir, le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, souligne que la collecte des absences dans les écoles a été mise en place il y a seulement quelques années, pendant la pandémie. À ce moment, on avait besoin de ces données une fois par semaine, dit l'attaché de presse Antoine de la Durantais. Il assure cependant que le ministère travaille en ce moment pour s'assurer que les absences soient compilées de la même façon dans tous les centres de services scolaires, afin d'avoir, à terme, un meilleur portrait des absences dans les écoles du Québec. Le ministère indique pour sa part être préoccupé par le nombre important d'élèves qui se sont absentés dans les dernières années et assure être à pied d'œuvre pour agir sur cette problématique. Au cours des derniers mois, différentes avenues pour valoriser l'assiduité scolaire ont été examinées. Elles seront partagées à court terme, indique par courriel le responsable des relations de presse, Brian Saint-Louis. Pas de clarté sur les motifs d'absence. La recension des causes de l'absentéisme pose aussi problème. Une analyse des données fournies par le ministère au devoir montre que 96% des absences d'élèves depuis l'automne 2022 ont été inscrites dans une vague catégorie regroupant les autres raisons que des cas de COVID-19 avec ou sans test positif, de même que la grippe ou le rhume. Sylvain Martel rappelle cependant que le réflexe des parents, quand leur enfant est mal en point, c'est de dire « il est malade, il ne peut pas venir à l'école », sans donner plus de détails. Des cas de grippe, de rhume et de COVID-19 pourraient ainsi ne pas être comptabilisés comme tels dans les données du ministère. Ces autres motifs n'ont pas été détaillés dans les données du ministère. Ce dernier note toutefois par courriel que des élèves peuvent s'absenter de l'école parce qu'ils sont atteints d'autres maladies, en raison de rendez-vous médicaux ou lorsqu'un décès survient dans leur famille, entre autres. Les vacances familiales en cause. Le Devoir a d'autre part constaté que nombre des lundis et des mercredis où il y a eu le plus d'absences dans les dernières années précédaient ou suivaient des congés scolaires. La Fédération des centres de services scolaires du Québec, FCSSQ, affirme d'ailleurs qu'à part les virus respiratoires, rhume, grippe, COVID, etc., les vacances familiales tenues pendant des journées scolaires figurent parmi les causes d'absence les plus récurrentes, sans toutefois fournir de données pour appuyer ces propos. Il peut arriver que les vacances familiales soient décalées en raison des coûts reliés au voyage en haute saison, notamment, souligne par courriel la Fédération. Le ministère confirme avoir, lui aussi, des préoccupations à cet égard. En 2024, les mercredis, où le plus grand nombre d'absences ont été comptabilisées, sont ceux qui précèdent directement le congé du temps des fêtes, le vendredi saint et la semaine de relâche, et celui qui suit le lundi de Pâques. Puisqu'il s'agit de périodes d'absence et que le nombre de périodes par journée de classe varie d'une école à l'autre, il n'est pas possible, avec les données recueillies par le ministère, de connaître le nombre d'élèves qui se sont absentés ces journées-là. Tout de même, la professeure titulaire au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, Christelle Tardif-Grenier, constate qu'on peut effectivement présumer qu'en milieu plus favorisé, les parents décident de prolonger leurs vacances et motivent l'absence de leurs jeunes. Elle remarque aussi que dans les secteurs plus multiethniques, en particulier à Montréal, beaucoup de jeunes manquent de l'école pour aller voir leur famille dans leur pays d'origine, pendant l'année scolaire. La professeure rappelle toutefois que les motifs de ces absences varient grandement en fonction du contexte socio-économique des élèves. Si on pense aux jeunes en milieu très défavorisé, il y a des absences aussi, mais ce n'est pas le même profil qu'on observe. Ce qui m'a été rapporté, c'est que les jeunes vont souvent manquer la dernière période de la journée pour travailler parce qu'ils soutiennent financièrement leur famille, souligne l'experte. De nombreux intervenants citent aussi les problèmes de santé mentale comme un motif d'absence qui soulève beaucoup d'inquiétudes dans le réseau. C'est le cas du président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost, qui constate aussi que des élèves victimes d'intimidation vont s'absenter parce qu'ils ont peur d'un groupe d'individus. Une diminution de la valorisation de l'éducation. La FCSSQ constate d'autre part que les tournois sportifs figurent souvent parmi les motifs d'absence d'élèves, une situation qui exaspère plusieurs directions d'école. Quand un tournoi de hockey à l'extérieur commence le jeudi matin, on va partir le mercredi soir ou le mercredi après-midi pour éviter de conduire le soir, et là, ça donne 2 ou 3 journées d'école manquées, déplore la directrice générale du Centre de services scolaires des Draveurs en Outaouais, Manon Dufour. C'est comme si l'obligation de fréquenter l'école 180 jours par année n'était pas si importante que ça. Pourtant, la recherche est claire. Quand on manque plus de 8 jours d'école dans l'année, on a 2 fois plus de risques d'échouer aux examens finaux. Et si c'est 18 jours, on met à risque la réussite scolaire complète, affirme Mme Dufour, dont l'inquiétude est partagée par Christelle Tardif-Grenier. Il faut s'inquiéter de ces absences-là, peu importe la raison, parce que ce dont ça témoigne, c'est d'une diminution de la valorisation de l'éducation, souligne la professeure. Elle note d'ailleurs que plus un élève s'absente, plus il accumule un retard qui le motivera à manquer plus de cours, au point de mener dans certains cas à un désengagement face au milieu scolaire. Et ça, c'est le facteur numéro 1 pour prédire le décrochage scolaire, souligne-t-elle. L'experte s'inquiète d'ailleurs de constater que des parents donnent à leurs enfants les accès nécessaires pour qu'ils puissent motiver eux-mêmes leur absence en ligne. Dans d'autres cas, les parents qui constatent que leur enfant ne s'est pas présenté à un cours sans raison valable vont motiver cette absence, constate Mme Dufour, qui tente de sensibiliser les parents à l'importance de cesser cette pratique. Les écoles privées, pas épargnées. Le phénomène des absences n'épargne pas les écoles privées. En entrevue, le président de la Fédération des établissements d'enseignement privé, David Bowles, confirme que les écoles qu'il représente notent un taux d'absentéisme des élèves plus élevé dans les jours qui précèdent ou qui suivent des jours fériés. Au fil des années, on s'est adapté à ces situations-là dans la mesure où les enseignants organisent leurs séquences d'enseignement en conséquence, constate-t-il. Les écoles privées sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à avoir pris l'initiative, au cours des dernières années, de regrouper 5 journées pédagogiques éparpillées dans le calendrier scolaire pour en faire une 2e semaine de relâche en novembre. Cette situation permet de lutter contre l'épuisement professionnel des enseignants tout en donnant un moment dans l'année où les familles peuvent partir en vacances à moindre coût que durant la relâche scolaire de mars ou dans le temps des fêtes, dit M. Bowles. Ce dernier fait d'autre part état d'une augmentation des absences chroniques d'élèves liées à des problèmes d'anxiété. Ceux-ci sont alors soutenus par des orthopédagogues et des experts du milieu de la santé qui accompagnent ces jeunes pour les aider à retourner sur les bancs d'école. C'était « Des absences scolaires préoccupantes et mal connues ». Un texte de Zachary Goudreau paru le 20 février 2025 dans Le Devoir.
Le retour de la rougeole fait craindre un désastre sanitaire annoncé aux États-Unis. Un texte de Charlotte Cosit de l'agence France Presse paru le 26 février 2025 dans Le Devoir. Taux de vaccination en baisse, nouveaux cas de rougeole est arrivé d'un vaccino-sceptique à la tête du département de la santé. Aux États-Unis, des acteurs de la santé s'alarment d'un désastre annoncé. Depuis le début de l'année, plus de 120 cas de rougeole ont été recensés au Texas, selon un bilan actualisé mardi, une dizaine dans l'État voisin du Nouveau-Mexique et une poignée d'autres à travers le pays, faisant craindre un retour en force de cette maladie contagieuse grave, quasiment éradiquée grâce à la vaccination. La rougeole, c'est le signe avant-coureur d'une crise à venir, affirme à l'AFP le pédiatre infectiologue Paul Offit, pointant la baisse des taux de vaccination depuis la pandémie de COVID-19. Sur fond de défiance croissante envers les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques, de plus en plus de parents décident de ne pas faire vacciner leurs enfants. La proportion d'enfants en maternelle vaccinés contre la rougeole, pourtant obligatoire, est ainsi passée nationalement de 95% en 2019 à moins de 93% en 2023, avec de fortes variations régionales. Dans l'Idaho, elle est passée sous les 80%. Une tendance qui pourrait encore s'aggraver avec le nouveau secrétaire à la santé, Robert Kennedy Jr., qui a mis en doute à plusieurs reprises la sûreté des vaccins et relayé des fausses informations à leur sujet, préviennent des experts. Avec pour conséquence un retour de maladies jusqu'ici disparues ou quasiment disparues. C'est un désastre annoncé, tonne Paul Offit. Exemption religieuse. C'est déjà en cours. Nos taux de vaccination sont déjà suffisamment bas pour que des enfants vulnérables contractent ces maladies, remarque Jennifer Herricks, scientifique dans une association de Louisiane qui promeut la vaccination. Dans cet État, des cas de coqueluche ont récemment été enregistrés et ont causé la mort de deux enfants, selon les médias locaux. Comme pour la rougeole, les experts pointent la responsabilité des dérogations vaccinales. Dans une grande partie du pays, les parents peuvent invoquer une raison autre qu'une contre-indication médicale pour éviter à leurs enfants une vaccination obligatoire. De nombreux États disposent d'une exemption religieuse, d'autres d'une clause philosophique, ou des deux. Au Texas, deuxième État au pays pour la taille de sa population, vous pouvez simplement dire que vous n'êtes pas d'accord, explique Terry Burke de l'association Immunization Partnership. La plupart des 90 cas de rougeole recensés au Texas cette année l'ont été dans un comté qui abrite une large population mennonite, communauté religieuse ultra-conservatrice, ce qui n'est pas sans rappeler l'épidémie de 2019 survenue dans des communautés juives orthodoxes de New York et du New Jersey, avec plus de 1100 cas. Plus de frustration et de politisation, moins de peur. Si les raisons derrière ces exemptions peuvent varier entre croyances religieuses, peur d'effets secondaires, défiance ou difficulté d'accès à un médecin, on observe une tendance liée au contre-coup de la pandémie de COVID-19, estime Richard Hughes, spécialiste en politique de santé publique à l'Université George Washington. La population est frustrée à l'égard de la réponse globale du gouvernement. Des messages contradictoires sur les masques aux obligations vaccinales, relève-t-il. Nous aurions peut-être mieux fait de continuer à encourager les gens à se faire vacciner plutôt que de les obliger. Une frustration exacerbée par les nombreuses fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, la peur liée aux maladies infectieuses s'est estompée dans la population, selon Paul Offit. Nous avons éliminé le souvenir de la rougeole. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ce virus peut rendre malade et tuer, souligne-t-il. Avant la mise au point d'un vaccin au début des années 1960, les États-Unis enregistraient entre 3 et 4 millions de cas par an et entre 400 et 500 décès associés. Mais au-delà de ces facteurs, c'est aussi la politisation croissante de la vaccination qui est montrée du doigt. Dans le pays, des élus multiplient les projets de loi pour enterrer localement les obligations vaccinales, interdire certains types de vaccins ou encore faciliter le recours à des dérogations. Les textes sur le sujet sont aujourd'hui plus de deux fois plus nombreux qu'avant la pandémie, dit Jennifer Herricks, qui participe à un suivi national. Cela s'est traduit, par exemple, par l'arrêt des statistiques vaccinales dans le Montana ou par la fin de la promotion des vaccins en Louisiane. Autant de signes d'un changement dans la place accordée à la vaccination, jusqu'ici considérée comme la pierre angulaire des politiques de santé. C'est un signe annonciateur de ce que nous commençons à voir et de ce que nous sommes sur le point d'observer au niveau fédéral avec Robert Kennedy Jr., prévient M. Hughes. C'était le retour de la rougeole fait craindre un désastre sanitaire annoncé aux États-Unis. Un texte de Charlotte Cosit de l'agence France-Presse, paru le 26 février 2025 dans Le Devoir.